Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. On appelle au dialogue de sourds et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Eh bien, nous sommes donc passés à contre-histoire. Et je vais en profiter pour vous raconter le terrain de jeu de Léopold. Léopold de Belgique. Les Français s'emmerdaient. Les Anglais s'emmerdaient. Les Belges, les Allemands, les Portugais et bien d'autres gouvernements d'Europe s'emmerdaient, fermes. Et puisque le divertissement, à ce qu'on dit, est une nécessité humaine, et qu'on avait développé une addiction de plus en plus féroce à ce besoin de se divertir, on organisa, pour le divertissement de toute l'Europe, la plus grande chasse au trésor de tous les temps. Deux ou trois siècles avant, l'Europe s'était déjà jetée sur le monde une première fois. Et dans la grâce de ce premier appétit, le vieux continent s'était donné plusieurs empires outre-mer. Et puis le temps était passé. L'Europe s'était de nouveau éveillée, reprenant soudain goût à la conquête. Les yeux s'étaient tournés cette fois-ci aux quatre coins de l'horizon. Car à présent, on connaissait plus précisément les limites du monde. Et c'était à l'intérieur de ces limites qu'on se taillerait une part. Terminées les explorations hasardeuses, les voyages en caravelle, les longues expéditions vers des terres inconnues, désormais le télégraphe et la vapeur allaient être les instruments du succès. C'est eux qui, tels des demi-dieux, parcourraient le monde, non plus à la recherche des épices ou de l'or, mais afin que s'accomplisse la promesse, l'ultime transmutation des hommes et de la terre, en cette matière ductile et infiniment exploitable que nous connaissons. Le monde entier devint soudain une ressource. Ce fut le dernier émerveillement, l'assouvissement de toutes nos soifs. Tout ça se fit d'abord dans le désordre. On ne saurait dire quand la chose commença ou recommença. L'Angleterre avait pris un peu d'avance. Les anciens empires se désagrégeaient lentement. On vit toujours entre deux mondes, entre deux moments de l'histoire, entre deux courants qui s'affrontent et ne l'emportent jamais définitivement l'un sur l'autre, comme si nos forces, nos contradictions intérieures luttaient là, devant nous, pour nous offrir le spectacle sanglant de nos démêlés dérisoires. Très vite, le souci de mieux faire s'affirma. Ça valait le coup de s'entendre. On perdrait moins de temps. Or, bizarrement, ce ne furent ni les Français ni les Anglais qui organisèrent l'indispensable négociation qui devait fixer entre les conquérants un code de bonne conduite. Ce fut Bismarck, le chancelier d'un empire tout à fait débutant en la matière, sans expérience coloniale, qui convia 13 des nations les plus déterminées. Celui qui devait donner son nom à une manière d'accommoder le hareng, à un colorant aux propriétés chimiques extraordinaires et au bismarckia, qui est un bouquet de feuilles au sommet d'une tige fibreuse, autrement dit une sorte de palmier. Lui, en l'honneur de qui seront baptisés un archipel, plusieurs montagnes, une mer, et même, ne me demandez pas pourquoi, la capitale du North Dakota, triste état du Midwest des États-Unis, bled comptant à peine plus d'habitants que Bourg-en-Bresse. Celui donc, en l'honneur de qui toutes ces choses allaient prendre ou avaient déjà pris son nom, convia à Berlin la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Portugal, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Turquie. En plus des innombrables maladies qu'il accompagnait lui-même, tous les jours, rhumatismes, colites chroniques, brûlures d'estomac, inflammation des veines, insomnie et j'en passe, afin, au nom du Dieu Tout-Puissant, de régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique, ainsi que le rappela l'acte final en date du 26e jour du mois de février 1885, signé par von Bismarck, van der Straeten, Pontos, Henry Stanford, Chaudron de Courcelles, Edward B. Mellet et 9 autres clampins qui, selon, apposèrent leur calligraphie gothique ou leurs pattes de mouche. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu tant d'États essayer de se mettre d'accord sur une mauvaise action. Il avait fallu bien de la puissance à l'Allemagne et bien de l'habileté à Bismarck pour faire venir tout ce beau monde et ordonner cette conférence. À coup sûr, c'était un acte politique d'envergure. Le samedi 15 novembre 1884, on se retrouva. On se retrouva, et c'est en 1869 que ce palais de Radzwil avait été acheté par le royaume de Prusse à l'initiative de Bismarck. C'est que la Wilhelmplatz, où se trouve le palais, était bien agréable, bordée d'arbres, telle que l'avait redessiné le bon Schinkel, avec son jardin au centre, coupé par deux chemins formant un grand X, la croix de l'homme moderne. Schinkel est un architecte imbécile qui a dessiné tout un tas de machins et notamment un projet pour les Grecs. Mais Dieu merci, les Grecs n'ont pas suivi Schinkel et son projet de restructuration de l'acropole en palais royal, double hérésie. Et à part les pillages que lui ont fait subir les musées de Londres et de Berlin, la ruine est restée ce qu'elle était. En 1884, donc, le palais Radziwill vient tout juste d'être rénové. La conférence de Berlin sera sa crémaillère. Le palais est un vaste ensemble rococo, style fleuri et ludique, où la décoration enveloppe la vie comme si la coquille ou la peau était l'expression de l'âme elle-même. Tout y est raffiné, fantaisiste, et c'est entre les anges joufflus et les courbes du chêl, dans cette superficialité étouffante, paludéenne, dans ce déchaînement de frivolité, parmi une prolifération de stucs, de lianes de plâtre, de flammes de verre, au milieu de cette prospérité monstrueusement légère, de cette inexpression foisonnante, de ce désir inouï de ne rien dire, mais de ruminer, de racasser, de remuer sa paille dans son verre, avec toute cette sexualité qui s'ignore et s'expose ingénument, vase chinois, mandarine, fouillis de branches et de griffes, ronde de satyre, espièglerie hideuse de petits monstres, c'est là qu'on va se pencher sérieusement sur le destin du monde et chuchoter d'énormes calculs. C'est que la décoration joue son rôle dans l'histoire, et pas un petit rôle de rien du tout. Un rôle insidieux, fantastique, de sphinx. Est-ce que ce n'est pas au miroir et aux tables qu'on pose les plus brûlantes questions ? On couche son oreille contre les coquillages. Enfant, on s'imagine vivre dans une petite grotte. Le rococo est en somme l'addition effarante de tous nos rêves, miroitement ininterrompus, où du même coup la vie s'efface et se pétrifie. Mais de tout ça, aujourd'hui, des lustres, des vases, des fresques peintes par X, il ne reste rien. La légèreté a été pulvérisée par les bombes. Ce joli petit palais a été occupé par Hitler dès 1933. Et sous la grande salle de réception, il a fait creuser un grand trou pour installer son Vorbunker, puis un peu plus loin et plus bas, le Führerbunker. Car d'année en année, il semble qu'il faille s'enterrer plus profond, comme ces morts qui, dit-on, se creusent chaque jour une nouvelle tombe plus loin, avant d'être aspirés tout au fond par la lave. Et c'est dans ce trou, à plus de 8 mètres sous les pelouses du jardin de la chancellerie, qu'on transportera les plus beaux tableaux, les plus beaux meubles de vieux palais. Ce fut le dernier repère des monstres. Et pas des petits monstres de plâtre, non, des vrais de vrais, les pires de tous. C'est là que Goebbels empoisonna sa nichée. C'est là que les grands diables ont gobé leur petite capsule de cyanure, fuyant l'apocalypse avant le jugement. On n'a peut-être jamais tant bombardé un endroit que celui-là. Les quelques centaines de mètres carrés au sol du vieux palais ont été chacun pilonnés par des tonnes de mortiers, jusqu'à ce que les bunkers cèdent, jusqu'à ce que les mètres cubes de béton crèvent et ne laissent que d'énormes ossements de dinosaures. Thank you. évitait de se montrer trop prolixe. Même ce vieux salonnard de machin truc chose, si bavard quand il est ivre, se cantonne à des lieux communs sur la place Wilhelm, sur les actualités du temps, sur les faits divers. Mais c'est surtout le nez qui, chez eux, est remarquable. Bien sûr, leurs oreilles, toutes brillantes, sont quelque chose. Leur front hardi, leurs regards soutenus font honneur au pays qu'ils représentent. Pourtant, l'essentiel de leur allure tient à la façon dont leur épine dorsale se prolonge et s'achève par le nez. Étrange anatomie! Toute la lumière du monde, c'est-à-dire celle des 115 bougies du salon, brille à la surface d'un millimètre de cartilage. Et voici Alphonse Chaudron de Courcelles, un des nez les plus splendides du monde. L'homme marche à pas très lents, enveloppé de je ne sais quelle pensée profonde. Mais en réalité, si on se penche sur son crâne et qu'on y fait un petit trou de chignol, on aperçoit sa cervelle toute blanche et dedans, on parvient, jetant un coup d'œil, à dénicher un linéament de sa pensée. Et l'on devine soudain qu'il est en train de songer, tout simplement, à l'entretien de son parc. Il se demande si les jardiniers ne négligent pas un peu de tailler les massifs, les petites pyramides de buis autour de la rotonde. Mais on ne sait pas s'il pense au parc du château d'Athis ou à celui d'Avoucourt, qui n'est pas mal non plus. Plutôt maison de notable que château, avec tout de même, en plus du bâtiment principal, parc nymphé, bassin et théâtre. Ça ne peut pourtant pas être celui d'Avoucourt, impossible. Il ne l'achètera que beaucoup plus tard, je crois. À moins que ce ne soit son fils. Peu importe, il pense à l'une de ses propriétés, à un joli jardin, à une pelouse mal tondue, à un parterre de fleurs. Car on est grand homme de cette façon-là, un peu châtelain, un peu poète ou jardinier. Un peu homme d'affaires, président du conseil d'administration de telle ou telle compagnie, prince de la chaussure, négus du charbon, énorme grenouille. C'est donc sûrement au parc du château d'Athis que Chaudron de Courcelles pense, entraînant ses savates dans le grand salon du palais Radziwill. Il rêve à ces merveilleux jardins suspendus au-dessus de la Seine. Et Chaudron, quel drôle de nom tout de même. On dit que les Chaudrons sont en général grandets et maigres, que leur démarche est nerveuse, précipitée, que leurs pommettes sont rieuses, leurs yeux profonds, qu'ils semblent sans cesse avoir quelqu'un à leur trousse. On dit que les Chaudrons sont à l'aise dans tous les métiers de salive, bavassier, vente à la criée, porte à porte, enseignement, politique. Le choix est vaste. Les Chaudrons détestent la routine et le travail contraint. Ils ont horreur de la monotonie des tâches ménagères. Et il est exact que Chaudron de Courcelles n'était pas très assidu au ménage, ce qui tend à prouver le bien fondé des remarques qui précèdent. Les Chaudrons, précise encore le docteur dans sa voyance de l'amour, sont assez femelles, sensibles à la flatterie comme aux critiques. Plus ils ont de soucis, plus ils dépensent. Qu'est-ce que c'est que ce machisme, monsieur Éric Vuillard? On vous aime, d'accord, mais faudrait pas exagérer. Et tout cela vient d'un Chaudron fait en 1867 baron de Courcelles, de Port-Courcelles sur la Seine, à Vigneux. Mais je me trompe peut-être, et ça m'est égal. Tout ce que je crois savoir, c'est qu'avant un certain Jules, ou Jules Louis, mais c'est peut-être un autre, on ne trouve plus vraiment la trace des Chaudrons. Ils rentrent dans le lot indiscernable des petites volontés. Ils se font minuscules, anonymes. Bien sûr, les chaudrons de Courcelles d'aujourd'hui s'indigneront et protesteront qu'ils ne sont pas de ces chaudrons-là, de ces petits chaudrons de rien du tout, qu'ils viennent d'un autre chaudron, qu'on le trouve quelque part dans les métamorphoses d'Ovide, quittant l'Apulie en compagnie de Vénulus. Mais nous, on s'en fiche pas mal de l'Apulie et de Vénulus. Quand les chaudrons de Courcelles nous abandonnent dans les petits chaudrons, nous abandonnent donc les petits chaudrons, ceux de l'Annuaire, ceux d'Aubervilliers et de Brignoles, ceux qui travaillent comme cadres catégorie D de je ne sais quelle administration de province, les chaudrons du Trimard, ceux qui traînent en tôle dans les asiles pour vieux, les dingos aussi, tout cela, nous les préférons à n'importe lequel de ces grands chaudrons de l'histoire, car ce sont ces chaudrons-là qui ont ressemelé nos chaussures pendant que nous les leur servions à boire, et ce sont eux encore qui faisaient nos lits pendant que nous rincions le mufle de leurs vaches. Nous sommes de la même espèce, eux et nous, et nous préférons n'importe lequel de ces premiers chaudrons à tous les héros de l'histoire de France. Pourtant, il faut bien avouer que le grand chaudron, Alphonse Chaudron de Courcelles, était tout sauf antipathique. Ce sont Ferry et Gambetta, le commis voyageur, celui qui fit le tour de France sur des tréteaux pour convaincre le peuple des bienfaits de la démocratie, l'homme au ballon dirigeable, le Phileas Fogg de la République. Ce sont eux qui avaient mandaté Chaudron à Berlin, car Chaudron était habile, oui, et sûrement un peu mieux que ça. Il était tout entier diplomate, comme certaines bêtes furent diplodocus ou diplocoque. Il avait le don de sourire et de penser en même temps, et derrière ses grosses moustaches aimables, il y avait des fils qui reliaient chacune de ses fossettes aux dendrites de ses neurones. Il savait bavarder, aimanter l'attention, donner une impression favorable, inspirer confiance. Sa condescendance pouvait passer pour une forme de sagesse. Ses airs patelins faisaient pardonner ses absences. À ses côtés, on se remémorait la grande maison basse qui sentait le bois, les bonnets d'ardoise, l'alouette qui chante. On n'est cependant pas forcé d'y croire. Le premier à parler, après la présentation du chancelier Bismarck, ce fut l'Anglais, Sir Edward Mallett. Il évoqua le bien-être des indigènes, vanta le libre-échange, mais parla de le contrôler, puis déclara d'un même élan l'Angleterre favorable à la liberté du commerce dans le bassin du Congo. On s'y attendait. C'est que, là-bas, au Congo, l'Angleterre n'a rien, pas un pet de terre. Il lui serait donc avantageux de pouvoir y commencer librement. De pouvoir y commercer librement. On est rarement protectionniste chez les autres. Mais la liberté du commerce a une histoire. Les physiocrates, ses premiers défenseurs, ne comprenaient pourtant rien à tout ça, mais alors rien du tout. Ils rêvaient d'une économie pastorale, seule capable de laisser à la fin un produit net, un surplus. Et tout le reste était stérile, voué aux gémonies. Pourtant, ils prirent parti pour la liberté du commerce, les premiers, dans une affaire de grains. Les idées des physiocrates sont assez sommaires. Ils sont contre toute forme de restriction gouvernementale en matière de commerce, pour la seule et unique raison qu'il faut laisser faire la nature humaine, laisser agir chacun à sa guise afin que le bien-être se produise spontanément. Ouais. Voilà l'idée. Le libre-échange fera miracle par lui-même. Il ne faut pas intervenir, on envenimerait tout. Et Quesnay, le plus célèbre d'entre les physiocrates, finira ses jours en cherchant la trisection de l'angle et la quadrature du cercle, étayant par des raisonnements délirants que la diagonale du carré et son côté ne sont pas incommensurables. Il finit fou. Puis vint cette grosse baderne de Smith, excentrique, mais dont les idées n'étaient pourtant rien moins qu'ordinaires, et qui fit, avec des pensées qu'on trouvait alors partout, un ouvrage capable de satisfaire à peu près tout le monde. Turgot, qui s'appelait Anne, était baron d'Aulne. Tout ça est bien joli. Il s'attaqua aux maîtrises et aux jurandes qui pourrissaient depuis si longtemps dans leur peau. Il fut l'introducteur en France du libre-échange. Voilà pour les ancêtres. Et Mellet, le plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine, est un héritier de cette histoire et y radote son vieux couplet. Mais il y a une autre histoire, une histoire plus concrète, une histoire plus large que celle du libre-échange, et qu'on pourrait prendre par n'importe quel bout et qui déroulerait devant nous sa pelote, toute sa série d'aventures et de profits, sa longue suite de droits affermés par les princes, ses compagnies commerciales, ses monopoles, et puis, soudain, ses milliers de petites ficelles, initiatives privées, dérégulation du trafic, concurrence. Ah, peu importe au fond qu'il s'agisse de mercantilisme ou de libre-échange, peu importe les entraves et les libertés, les licences, les contrats et les dessous de table, ce qui compte en définitive, ce n'est pas cette vieille bête de libre-échange que réclament ceux qui l'avantagent, non, c'est le développement effarant des échanges eux-mêmes, la grande ivresse transocéanique d'acheter et de vendre.
Thank you.
Pendant des siècles, les navires avaient fait le grand huit dans l'océan, s'arrêtant aux Açores, mouillant aux Antilles, ramassant à Sao Tomé, sur la côte de l'Or ou à Gorée, leur cargaison d'esclaves, puis remplissant plus loin leurs cales de barils de sucre. Pendant des siècles, les routes du progrès avaient été les mêmes, empruntant les courants marins, les vents, et dessinant chaque saison les côtés d'un même triangle, reliant les trois espèces d'une communion de marchandises, de nègres et de mélasses. On était parti du Portugal, de Hollande, d'Espagne, d'Angleterre et de France. On avait négocié sur les côtes africaines sa cargaison d'hommes. Eux étaient venus captifs de Guinée, d'Angola, du Tchad, de Gambie, du Dahomey, du pays de Couche ou d'Aksum, et on les déportait à Madère, à la Barbade, au Brésil, en Caroline ou en Virginie. Il y avait eu un nombre incalculable de petites guerres, de razzias, de mauvais coups. On avait capturé, kidnappé, récolté l'impôt ou le tribut sous forme de chair. Et tout le monde s'y était mis, les rois s'y étaient mis, roi d'Oyo, roi d'Abomey, Tango Maos, mercenaires crotteux, des peuples entiers s'étaient convertis. Les Aros, les Yogos, les Ijao, les Ibijo avaient remonté les rivières en jouant du tambour. Puis ils avaient chargé les captifs dans leurs canots, et sillonnant les marais, entre les grandes araignées végétales, ils avaient rejoint les estuaires et renversé sur leur sable leurs brouettes d'hommes. Au matin, des inconnus surgissaient soudain dans le village. On ne les avait pas entendus venir. Des oiseaux blancs s'étaient envolés en criant. Il ne faisait pas encore chaud. En les apercevant, les jeunes filles avaient crié, mais elles étaient restées immobiles, sans se défendre. Puis ils avaient ramassé quelques jeunes hommes dans les champs, dispersés par les travaux, et très vite ils étaient repartis. On ne les avait jamais vus auparavant. Certains villageois avaient entendu parler de ces enlèvements. On disait qu'ils emportaient les gens très loin, qu'on ne les reverrait jamais. Et c'était vrai. On ne les avait jamais revus. Beaucoup de temps s'était écoulé. On avait raconté mille fois l'histoire. On avait fait presque une légende de ces hommes brutaux, surgis de nulle part. Et voici qu'un matin, ils étaient revenus, sortant à nouveau de l'obscurité. On ne devient pas négrier comme on devient libraire ou charcutier, non. Il faut, comme les patrons de bar, se signaler, obtenir sa licence. Et elle prévoit tout, la licence. Le nombre de captifs que l'on peut prendre, la répartition par sexe, les lieux d'achat et de vente. Tout cela est réglementé, contrôlé. Le négrier de Sao Tomé vend son bétail à une sorte d'armateur qui le revend plus loin. Tout le monde est content. Un captif s'amortit en moins de 2 ans. Et il suffit de savoir lire, écrire et compter, de savoir retrancher à ce que l'on doit encaisser, l'armement du navire, les pertes éventuelles, et l'on connaît ses gains. Les compagnies disposent d'entrepôts, de flottes, de bureaux. Ce furent les premières firmes du monde moderne, les premiers liens solides entre les continents. Très vite, il y eut une efflorescence d'entreprises, de concessions plus ou moins régulières, une ribambelle de forts, de garnisons, de comptoirs, entretenus par des marchands. Et l'État encouragea, encadra la traite. Il fit même mieux, il la subventionna. S'y mirent à leur tour les Suédois, les Danois, les Brandebourgeois, tout le monde. La concurrence fut vive, et l'on finit par supprimer les règles qui entravaient un développement plus rapide du commerce. Et de nouveau, l'entreprise privée domina. Ainsi, la production et la vente d'esclaves et de coton ressemblent à une autre. Et parce qu'elles sont plus choquantes, puisqu'il s'agit de chair humaine, on voit bien, au-delà du discrédit qu'elles jettent sur la nature de l'homme, on voit bien comment elles introduisent dans le commerce, dès les premiers pas de sa destinée planétaire, une sorte de paroxysme. Revenons à Mellett. Il sortait d'Eton. Sir Edward Baldwin Mellett était quatrième baronnet de je ne sais où, conseiller privé du Royaume-Uni, chevalier grand-croix de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, et aussi de l'ordre du Bain. Il portait la barbe courte, il était élégant. Comme Chaudron de Courcelles, il avait le goût des belles demeures. Ainsi, quelques années après la conférence, il acquiert le château de l'Ermitage. Et pas à l'embouchure du Niger ou du Congo, non. À un truc énorme, à Cap d'Aille. L'édifice est inspiré des palais baroques. Un volume en U, coiffé d'un belvédère, et qui ressemble à une villa géante, surchargée. Oh, mais je ne parle pas d'une démesure féroce, d'une hybris poussante aux violations sacrées, non. Mellett n'a rien d'Antigone ou de Thieste. Il n'a rien d'un Charles Foster Kane. Rien d'un Vanderbilt, rien d'un Aga Khan. Mellett n'a aucune petite boule de neige ou de cristal à laisser échapper de ses mains. Pas de vieille luge à rêver. Pas de pseudo-cantatrice dans le placard, non. Mellett a seulement des titres, un portefeuille et un œil énorme parcourant les bords du monde. Un œil dans une loupe. Un jour, dans très longtemps, on fera sans doute le feuilleton, aujourd'hui encore approximatif et médiocre. Oui, on fera un jour le portrait des conseils d'administration et des gros actionnaires de notre époque, lorsqu'on disposera de tous les renseignements inutiles. Et on y trouvera à coup sûr nos Courcelles et nos Mellett. Mais il y aura aussi mieux. Il y aura parfois, comme les langues des caméléons se prolongent, ces familles tout étirées dans le temps. Ainsi, on sait bien, déjà, que la femme d'un de nos vieux Cornac, je veux parler d'un de nos présidents de la République, qui me semble être Chirac, est une vraie Chaudron de Courcelles. Mais l'on sait moins que Georges Chaudron de Courcelles, notre contemporain, et son parent, sans doute un brave monsieur, était à 28 ans en 1978 responsable des études auprès de la direction financière de la BNP. Il est aujourd'hui, aux dernières nouvelles, membre du conseil d'administration de Bouygues, président de la compagnie d'investissement de Paris, de la financière BNP Paribas, vice-président, on ne peut pas toujours être en tête, de Fortis Banksa NV en Belgique, administrateur de Nexans, d'Alstom, de la financière foncière participation de Werner Investissement d'RBSA en Belgique, du groupe Bruxelles-Lambert SA Belgique, de Score Holding en Suisse, et j'en passe. Membre du conseil de surveillance de Lagardère, censeur d'Exane, on n'y comprend plus rien. On ne sait même pas ce que sont toutes ces choses, acronymes étranges, et l'homme semble avoir tellement de fonctions, et la chose est si hermétique qu'on en reste muet. L'eau est noire, les lianes sont larges et longues. On n'est finalement pas très loin de l'embouchure du Niger ou du Congo. Fortis, Werner, RB, Score, Exane, on dirait les figures de je ne sais quelle antiquité platonique et fuyante. On peut donc faire tant de choses. On peut être à la fois président d'une compagnie, vice-président d'une autre, administrateur d'une troisième, et encore trouver un peu de temps pour être membre d'un conseil de surveillance et censeur, etc., etc., jusqu'à ce que le Seigneur vous demande de le suivre et de tout laisser. Oh, je sais. On dira que ce sont des fonctions qui ne demandent qu'une vague présence, des titres plus honorifiques qu'autre chose. Je connais la musique. On ferait tout ça en amateur. On zonerait d'un siège à l'autre. Ce ne serait que des petits emplois de dilettante. Mais ça rapporte. Ainsi, tous les mercredis, pendant des mois, les Courcelles, Mellet, Bush, Cusrow, Sechnil, Lambermont, Wind, Benomar, Casson, Van der Hoven, Penafiel, Serpa Pimentel, Capnist, Bilt, se retrouvent invariablement et disputent de tout ce qui concerne le bassin du Congo. Car bientôt, la conférence ne tourne plus qu'autour de ça, le Congo, l'affaire du roi des Belges. On fait de la géographie, on regarde des cartes, on trace des lignes imaginaires dans des paysages de papier. Les copropriétaires discutent de millièmes qu'ils ne possèdent pas encore, des millièmes d'encre, des centimètres de cartes qui représentent des territoires inouïs. Et inconnu. Et déjà, il pinaille sur les réparations de la cage d'escalier, sur la façade qu'il faudra refaire, sur l'entretien des boîtes aux lettres. L'un évoque les intérêts de son pays aux environs des 5 degrés 12 De latitude nord, l'autre parle de tracer une ligne depuis l'océan Atlantique à 1,25 de latitude sud, une ligne allant vers l'est jusqu'à 13,30 de longitude, puis remontant vers le nord le long du méridien jusqu'à 5 degrés de latitude, afin d'arriver un jour à l'autre océan, et de faire avec tout ce papier découpé au ciseau un immense pays libre, un pays de commerce, la cocagne. Tout ça est bien abstrait. Le conseiller technique de la délégation allemande crachote trois mots. On hoche la tête. Chacun y va de sa petite réclamation frontalière, de sa servitude de passage. On parcourt en tous sens l'Afrique à la loupe. Alors l'œil s'écarquille. Que c'est grand, que c'est beau! C'est une avalanche de formes réelles, de côtes, de forêts, de rivières, de lacs. Regardez ces hommes en costume, assis sur leur cul de singe, contrefaisant leur propre voix, parlant au diable. Ils sont au bout du monde, à Berlin. Et ils marchandent comme les Noirs, comme les Arabes, comme n'importe qui. Ils échangent et leurs mains tendent à la fois les choses qu'ils échangent et quelque chose de plus. Elles tendent à la fois des verroteries, des plumes et des perles, des livres sterling, du caoutchouc et, je ne sais, quelque chose invisible. Depuis les débuts de la conférence, on attendait avec curiosité la venue de Henry Morton Stanley. Tous ont vu les belles photos où il pose le fusil à la main, avec un petit nègre, devant trois pauvres cailloux et deux fausses plantes. Tous ont lu « Le continent mystérieux ». Tous ont été avides de nouvelles lorsqu'il partit à la recherche de Livingstone. Tous ont lu, médusé, le récit à cinq cents de ses exploits. Stanley viendra, quelque mercredi, offrir un échantillon de son expérience. Il le parlera du Congo, des rapides, de la forêt, de la brousse, des nègres. Ils l'écouteront parler comme de bons petits. Puis, une fois racontées les grandes fougères, une fois pagaillées sur le Congo et le Mopopo, une fois remontées jusque je ne sais où, sur une pirogue, une fois abattues une quinzaine d'hippopotames, il leur fera une estimation claire et succincte des profits qu'ils peuvent espérer d'un retour sur investissement. Tout le monde restera baba. Après les lianes, la boue, les voici très au-dessus de la canopée, propulsés vers le ciel. Heureux! Et un instant, il rêve. Mellet rêve en anglais. Le turc rêve en turc. Et Pontos rêve en belge. Tous rêvent. Ils installent un chemin de fer, ils bâtissent des villes, des comptoirs. Oh là là, que ça va vite avec Stanley, et le bon sens indécrottable de Stanley, avec son petit accent des faubourgs, avec son expérience des pirogues et des quartiers de bananes. Mais Stanley bluffe. Ses calculs sont du bluff, du pur bluff. Il connaît rien à la finance, rien au commerce, rien à rien. C'est un drôle de type. Henry Morton Stanley. Son nom est un nom de scène. Ses costumes d'explorateur feront le tour du monde. On vendra ses bretelles chez Sotheby's. Mais le problème principal, ce n'est pas la vie de Mr. Stanley. Ce ne sont pas ses états d'âme. C'est de définir le bassin du Congo. C'est de savoir où ça s'arrête, le paradis. Bah, on trouvera bien, puisque Mr. Stanley l'a découvert, le Congo, alors. Il saura bien dire où il s'arrête. Stanley leur montre des diapositives. Les 14 bonshommes regardent et écoutent. 14 nations attentives, c'est quelque chose. Stanley, un peu cabot, a le mot pour rire, le haussement d'épaules, le charme. La reine Victoria ne l'aime pas, ce qui est bon signe. Il faut dire qu'il est le salarié de Léopold pour 1 000 livres par an. Eh oui, il a sans doute, comme n'importe quel chômeur, passé un entretien d'embauche. Avant lui, on avait reçu Gordon Pacha et Cameron. Mais ce fut lui qu'on recruta. Sa mission à la conférence sera de persuader les plénipotentiaires d'imaginer un Congo le plus vaste possible, une poche géante au milieu de l'Afrique, juste pour Léopold. Le roi des Belges était un monarque constitutionnel, voué au protocole. Il ne voulait pas en rester là. Pendant 20 ans, il se démena pour agrandir sa minuscule Belgique. En Europe, les opportunités de s'étendre étaient, pour son pays, inexistantes. Il entreprit donc de lui trouver une colonie. Il eut pour cela les idées les plus extravagantes. Il envisagea d'abord d'acheter un bout de planète à quelqu'un, n'importe qui. Il songea à une province de l'Argentine, qui ne voulait pas vendre. Il eut alors l'idée d'acheter Bornéo aux Pays-Bas. Nenni. Il imagina louer les Philippines à l'Espagne. On verrait plus tard les moyens de les conserver. Quelques discussions s'engagèrent, qui n'aboutirent pas. Son imagination se jeta alors sur la Chine, le Vietnam, le Japon. Mais une entreprise coloniale dans ces pays requérait des moyens dont sa personne privée ne disposait pas. Car ce n'était pas son royaume en réalité qu'il envisageait d'étendre. Il n'en avait pas le pouvoir. Le Parlement belge et son gouvernement étaient souverains. C'est donc en tant que Léopold, en tant que titulaire d'un compte courant et de quelques moyens de paiement, qu'il méditait ses exploits. Il alla jusqu'à faire un tour imaginaire des îles du Pacifique. Peut-être là-bas dénicherait-il un coin où établir sa puissance. Mais non, rien. Pas même au Fidji, qu'il lorgna quelque temps. Tous les trônes étaient accaparés. La ruée vers le monde sembla un instant achevée. Il s'y était peut-être pris trop tard. Cependant, il ne se décourageait pas. Et soudain, son attention fut attirée vers l'Afrique, grâce au raffut qu'avaient suscité les explorations de Speke, de Livingstone, puis de Stanley. C'est qu'alors on traversait l'Afrique en tous sens. On voulait découvrir son secret. Les imbéciles sources du Nil, à savoir où est le cœur de la grande forêt. Mais l'Afrique n'a aucun secret. Personne n'en a. Nous ne sommes qu'estuaires, deltas et marécages. Depuis des siècles, les Africains avaient appris à se débrouiller avec les Européens qui traînaient près des côtes. Mais voici qu'à présent, des tribus reculées entendaient parler d'eux. On avait beau vivre au-delà des rapides, une rumeur remontait le cours du fleuve. Sur tout le continent, un point d'interrogation commençait à se former et de se dresser tout doucement, comme une menace. Le mal apparaissait sous la forme des divinités sanguinaires, des morts voraces, des bêtes, mais il n'allait jamais seul. Il était toujours accompagné d'autres choses dans sa courbe déclive et fuyante. Son mystère se mêlait à l'herbe mouillée, à une traînée de feu, au singe qui crie, à la colère, au sexe qui s'élève, à l'orage. Mais le petit Satan qui allait venir n'aurait besoin ni des hyènes, ni des singes, ni des marécages, et il introduirait de l'homme à l'homme une sorte de méfiance. Cela, les Africains l'ignoraient encore. Ça n'avait pour l'instant aucune réalité. Ils étaient bien loin, les diplomates de Berlin et leurs projets. Les sociétés privées étaient encore loin, elles aussi. Certaines se tenaient pourtant déjà à l'embouchure du fleuve. Il y avait Stanley, surtout, et cette piste qu'on l'avait chargé de creuser à travers la brousse. Au départ, Stanley crut sans doute que Léopold souhaitait construire un chemin de fer à travers les monts de cristal jusqu'à Stanley Pool et établir une sorte de comptoir. À partir de là, le roi se lancerait dans une vaste entreprise commerciale puisqu'on pourrait remonter le fleuve sur 1 600 km jusqu'au cœur de l'Afrique. Il se trompait. Tout le monde se trompait, sauf le colonel Strauch et quelques-uns qui étaient dans la confidence. Les ambitions du roi étaient extravagantes. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir une chatière, de faire un peu de commerce. Il voulait créer un État, mais pas un territoire belge, comme il existait déjà des colonies françaises, anglaises ou portugaises. Non, une colonie perso, si l'on veut, un bien foncier dont il serait propriétaire. Il voulait le Congo pour lui tout seul. Et cet État devait être encore le plus grand possible, et les nègres ne devaient pas y avoir la moindre participation politique. Ce serait d'ailleurs moins un État qu'une société anonyme. N'était-il pas plus simple que des sociétés exploitent directement les territoires sous la direction de ceux qui ont l'audace des affaires ? La politique est une vieille lune pour Léopold, un obstacle, du gaspillage. Une bonne gestion devrait suffire. Pas besoin d'encombrer tout ça de politique. Il fallait juste acheter autant de terres qu'il était possible. Thank you. Pour parvenir à ses fins, Léopold se ménageait en Europe de nombreux appuis. Il présentait son projet comme une œuvre de bienfaisance et cherchait des alliés du côté des missionnaires, des scientifiques, de toutes les bonnes âmes disponibles. Il était décidé à devenir propriétaire d'une colonie. Envers et contre tout, contre les intérêts des puissances coloniales, contre le souhait du gouvernement belge lui-même. Et pour cela, il lui faudrait coloniser tout seul, en nom propre, en tant que simple citoyen. C'était une idée insolite et nouvelle, jamais personne n'y avait encore songé. Pour cela, il lui fallait être très habile, dissimuler ses motifs et ne faire appel qu'au bon cœur. Il fallait tisser tout un écran de sociétés philanthropiques, d'associations, et leur laisser en apparence, la direction des affaires. Puis il faudrait bâtir un état de papier mâché. Derrière cet écran, Léopold se tiendrait, tel le magicien d'Oz. Dans ce dispositif, Stanley va jouer un rôle capital. En 1878, il passe un marché avec le roi. Le roi finance et lui, Morton Stanley, exécute. Il doit rendre accessible le bassin du Congo. Et pendant que Léopold déniche encore quelques financements de sociétés missionnaires, Stanley se met à acheter des terres, autant de terres qu'il peut. On n'a jamais vu ça. Il fait signer des tas de papelards à des chefs africains qui n'y comprennent rien. « Tenez, signez, c'est pour le grand polichinelle. Vendez pour 3 perles votre terre et votre force de travail pour 5 rouleaux de calicot. » Et les rois signent. Et s'ils ne signent pas, on les égouille. Une fois obtenu son livre d'or, une fois amassé tellement de terre qu'il n'en connaît pas les limites, Stanley s'attaque à la grande forêt. Il fait couper, hacher, tailler les troncs, les tiges, les branches, tout ce qui dépasse. La piste s'allonge, le travail est pénible. On recrute de force. Les brouettes de terre glissent sur leur gouttière de planche, les pioches ripent dans les cailloux, mais il faut avancer toujours. La piste sera de 200 km et la forêt est dense, si dense. Une immense barrière de chlorophylle, d'ébène, de cipaux, d'acajou et de champignons. Il fait une chaleur atroce et il pleut. Et l'humidité est atroce. Alors Henry Morton Stanley, le petit gamin de l'orphelinat de Saint-Asaph, avec derrière lui sa blessure secrète, le registre de naissance où il est écrit « John Rowland, bâtard ». Lui, le fils d'ivrogne, abandonné, maltraité, sorti tout droit d'un roman de Dickens, qui à 15 ans quitta l'orphelinat et se mit à bosser, lui qui à 17 ans embarqua pour l'Amérique, où l'on raconte qu'il travailla d'abord pour un négociant de coton et lui piqua en douce le beau nom de Stanley, sous lequel il deviendra célèbre. Lui qui avait été soldat confédéré, puis fait prisonnier à la boucherie de Shiloh, et qui, devenu nordiste, déserta, et se fit reporter, puis enfin aventurier. Voici qu'il fait fouetter des nègres afin de faire avancer la grande entreprise léopoldienne. Voici qu'il se trouve embringué dans un énorme micmac léopoldien, dans un immense crime léopoldien qui le dépasse. Et le voici en train de faire creuser une piste à travers la forêt à des centaines d'hommes. Le voici qui doit les forcer, les tenir et fonder grâce à ce travail inhumain des comptoirs et avancer dans la forêt en direction de nulle part. Stanley honnissait l'Afrique en cet instant. Il aurait voulu être à Londres devant un drink. Mais surtout il rêvait de cette vie de famille qu'il n'avait pas eue enfant et maudissait d'être là dans la chaleur accablante, emporté par une tâche qui le dépassait, dont il n'avait peut-être pas immédiatement saisi l'ampleur et qui devenait de jour en jour un cauchemar. Et il souffrait et trouvait sans doute aussi du plaisir et à souffrir et à faire souffrir. Et il donna ainsi, à coups de machette, sa première forme à cet état. Il avait même cru bon de fonder une ville à la place d'un village du nom de Kitambo. Il lui donna le nom de son employeur, Léopoldville. Et ce Léopold, qui est-il? On n'en sait rien. Sur certaines photos, on lui voit un drôle de regard, une sorte d'œil plus petit que l'autre et plus noir. Il a le front fuyant, pas de cou, les hanches larges, le buste petit. Mais surtout, il est géant, absolument géant, une sorte de mammouth. Il envoie directement ses instructions à Stanley. Le bon Stanley n'est qu'un délégué technique, comme on dit de nos jours, un expert. Ça allume un peu notre lanterne à propos des experts. Et je vous en ai peut-être assez raconté pour aujourd'hui. Je continuerai la lecture de ce que Éric Vuillard a appelé Congo, même si j'ai bricolé ça en terrain de jeu de Léopold pour titrer l'émission. Voilà, paru chez Babel, oui. Comme beaucoup des œuvres de Éric Vuillard. Alors donc, nous retrouverons Éric Vuillard samedi matin et nous finirons ce petit livre édifiant, comme on dit. Merci de votre écoute et prenez soin de vous. N'oubliez pas la fraîcheur, n'oubliez pas de boire et de prendre soin de vous et des autres. À bientôt, à samedi.